Les rencontres du livre, le livre sous tous ses aspects avec Yolan Simon et ses invités.
Bonjour, nous sommes avec Didier Guillaumet. Didier, bonjour.
Bonjour Yolan.
Didier Guillaumet qui est professeur de philosophie au lycée François 1er.
C'est bien
mais
ça.
Parce que autrefois on disait le lycée de garçons. Moi, souvent j'écrivais lycée François 1er en parlant de Jean-Paul Sartre et je me suis fait corriger par les historiens. Non, c'était le lycée de garçons. Je ne sais plus de quand date le lycée François 1er, le nom.
Alors là, tu poses une colle. Là, je commence
colle,
par une
oui,
petite
oui,
colle.
Oui.
Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas si récent que ça.
Et d'ailleurs, ce Jean-Paul Sartre, donc, qui la rue du lycée François 1er maintenant, c'est la rue Jean-Paul Sartre.
Oui, tout hein, à fait.
Il a volé la place à ce pauvre Ancelot. Vous savez qui était Ancelot, Didier?
Hein, non,
Polycarpe, dis-moi. Polycarpe Ancelot, carrément, hein,
oui.
Qui était un auteur dramatique. Et ce pauvre Ancelot, il s'est fait virer comme ça. Hein. Alors moi qui défends les auteurs dramatiques, je me dis que le jour où on m'accordera une impasse, je me ferai virer par un mec plus célèbre. C'est ça qui est terrible. Ancelot, on devait parler de vous, Didier, puis je parle d'Ancelot, on va, tant pis. Je vous avais dit que je ne respecterais pas mon plan. Hein.
Je vois que ça bifurque.
Alors, oui, ça bifurque
avant d'être au lycée François 1er, j'étais au lycée Schumann, où j'ai passé de longues années.
Mmh.
J'en parle aussi parce que pour arriver au lycée Schumann, il y a une rue qui s'appelle la rue Socrate.
Oui, ah bah oui.
Donc
oui,
ça,
oui.
C'est pas mal.
Celle qui monte vers
voilà,
les UT.
Voilà, tout à fait.
Oui, je l'ai prise souvent.
Je suis allé souvent au lycée en passant par une rue qui portait le nom d'un philosophe.
Oui. Avec
la rue Socrate, c'est quand même bien. Aussi.
Avec la pauvre gaffe qu'avait fait la pauvre coquille, qu'avait fait le journaliste du Havre Libre, ou je ne sais pas quel titreur, dans la titraille, comme on dit, qui, à la mort de Maurice Schumann, avait annoncé la mort de Robert Schumann. Évidemment, c'était difficile. Mais pour revenir à Ancelot, oui. Ancelot avait écrit une pièce qui a succédé au Burggrave, quand on a fait tomber par une cabale la pièce de Victor Hugo. Il paraît que la pièce était si mauvaise que les plus antilles et les plus hostiles à Hugo criaient « Rendez-nous les Burggraves, rendez-nous les Burggraves !» Et chose étonnante encore, Ancelot est le grand-père de Marc Sangnier, que vous connaissez sans doute, un peu le créateur de ce que deviendra les jeunesses chrétiennes,
D'accord,
la CFDT,
oui.
etc., le catholicisme social, qui vont être d'ailleurs excommuniés ou je ne sais pas trop quoi, en même temps que Maurras, que l'Action française,
D'accord,
pour faire deux poids, deux mesures. Quoi.
Oui.
Voilà, ben ça nous éloigne beaucoup de
Didier
Guillaumet.
Oui, on peut revenir à Sartre,
mais je sais,
François 1er,
je sais
la
que Didier, Sartre et la culture encyclopédique, votre culture encyclopédique vous amène, en dehors d'être prof de philo, je termine la présentation, vous avez vu, elle est longue aujourd'hui. Hein. Didier Guillaumet, professeur de philosophie, cinéphile, grand cinéphile,
oui.
Et ami des slameurs, et même slameur à 16 heures.
Oui, tout à fait. Alors,
c'est joli, hein, ami des slameurs, et même slameur à 16 heures.
Oui,
est-ce que ça fait un alexandrin, ça, presque
ça rime
c'est
bien.
Une rime intérieure, oui.
Voilà.
Oui. Alors Didier, bonjour.
Grand cinéphile, alors modeste cinéphile, on en reparlera, mais surtout avec la volonté de présenter des films régulièrement donc dans un cinéma qui s'appelle Le Studio.
Oui.
Voilà. Et pour le slam, effectivement, j'ai fait ça il y a surtout une quinzaine d'années.
On va y revenir voilà. Parce qu'on va d'abord parler de vous.
Allons-y.
Hein. Alors, vous êtes né ici au Havre, non?
Pas du tout. Je suis né en région parisienne, en Seine-et-Marne, dans une ville qui s'appelle Jouarre.
Oui,
était,
c'est près de chez Jean-François Copé, ça, du côté de Melun.
Oui, tout à fait, c'est pas très loin de Meaux.
De Meaux,
Coulommiers.
Mmh,
voilà,
donc,
et ma famille
Meaux
vit toujours.
Meaux pour Jean-François Copé et Bossuet.
Oui.
Et Coulommiers pour le fromage.
Voilà.
Voilà.
Et pour, c'était aussi notre ministre de la Culture qui était maire de Coulommiers.
Ah oui. Lequel?
L'actuel.
Ristert.
Riester,
Franck Riester,
voilà.
D'accord.
Qui a été, voilà, bon, ça c'est pour l'anecdote.
Oui, 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 oui. Eric
donc,
Holder, un écrivain que j'aime beaucoup, vivait aussi, a vécu longtemps en Seine-et-Marne.
Pardon
aussi. Oui. Eric Holder,
oui.
Un écrivain que j'aime beaucoup. Oui. Alors donc vous êtes né là en Seine-et-Marne, vous avez fait vos études vous avez fait des études, oui, quand
oui,
même.
Oui, tout à fait.
Pour être agrégé de philo,
j'ai fait mes études à la Sorbonne. Voilà, j'ai fait mes études
non,
à la
Non, mais avant.
Alors, avant, c'était Coulommiers également.
Coulommiers. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier livre ?
Pardon ?
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier livre, Didier ?
Premier ouvrage que j'ai lu ?
Oui.
Je ne sais plus.
Il y a des gens qui me répondent quand je demande est-ce que vous vous souvenez de votre premier livre ? Ils me répondent oui, oui.
Alors, j'en ai lu. Non, c'est pas oui. J'ai lu.
Non, alors, est-ce que.
J'ai lu un premier livre, mais alors là, je suis incapable de dire ce que c'était. Peut-être était-ce. Peut-être
les
était-ce
clés,
oui, quelque chose comme ça, oui. Ou les Compagnons de la Croix-Rousse, ou
ces
collections.
Le Club des Cinq.
Club des Cinq, peut-être aussi, je ne sais plus.
Oui. Et alors, est-ce que vous vous souvenez, au lycée, vous étiez au lycée donc
à Coulommiers.
À Coulommiers,
oui. Jules Ferry.
Oui, vous vous souvenez un petit peu, en seconde, première, des découvertes littéraires, est-ce que vous avez, ou des dégoûts d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Première, je m'occupais du journal du lycée.
Oui.
Et j'avais commis un petit article sur Samuel Beckett. Parce que c'était un auteur qui m'avait beaucoup impressionné.
Oui.
Et sinon,
il était d'ailleurs lui-même impressionnant.
Oui, voilà. Et sinon, j'étais très sartrien aussi à l'époque. Je lisais beaucoup Sartre.
Oui.
Je lisais tous les classiques, en fait.
C'est-à-dire Sartre, pas seulement le philosophe, la nausée.
Surtout le romancier.
Le mur.
Le romancier.
Les chemins de la liberté.
Le nouvelliste. Le dramaturge.
Oui.
Effectivement, le mur. Nausée.
Oui, et les chemins de la liberté, non
Les chemins de la liberté. Oui. J'avais commencé.
C'était les livres cultes de ma chère épouse, chemins de la liberté. Oui, la mort dans l'âme, le sursis. Ouais.
Et j'aimais bien aussi ce qu'il appelait ses autobiographies existentielles, ses psychanalyses existentielles, c'est-à-dire le son Baudelaire, son Saint-Genet.
Ah oui, oui, oui.
Donc ça, il
a édité, vous étiez plus lycéen, là.
Si, j'étais lycéen, oui.
Ah oui, c'est vieux que ça, déjà. Oui, oui,
oui. Oui, oui, oui.
Oui. Et Camus, non ?
Si, bien sûr.
Et vous avez pris parti dans la querelle ?
Non.
Non ?
Non, j'avoue que... Bon, j'avais un petit faible pour Sartre.
Oui, pour un philosophe, il a une épaisseur philosophique qui est supérieure à celle de Camus, non ?
Voilà, il y a une prose. Ensuite, je trouve que Camus, avec le temps, est parfois plus intéressant. Mais
la période est camusienne, il faut le dire.
Comment ?
La période est camusienne plus que sartrienne.
Oui. J'aimais beaucoup le mythe de Sisyphe.
Oui.
Quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai réutilisé d'ailleurs dans mon Master 2 ce qu'on appelait le DEA à l'époque.
Oui.
Parce que je trouvais que c'était quand même... un point important.
Voilà. Alors, nous allons enchaîner un petit peu sur votre parcours universitaire. Bon, donc vous êtes, on ne va pas se traîner trop. Vous avez fait des études très brillantes. Vous êtes agrégé de philo.
Oui.
C'est pas rien, agrégé de philo. Il y en a combien ? 10 tous les 5 ans ?
Non, un peu plus quand même.
Oui. Et donc, maintenant, à François 1er, vous avez évidemment les terminales, mais vous avez également les classes préparatoires.
Oui, je m'occupe des classes préparatoires ECS.
Oui.
C'est ce qu'on appelle les prépas HEC.
Les prépas HEC, oui.
Donc, on a affaire à des élèves qui vont devenir managers.
Oui.
Entre autres.
Oui.
Et la philo, avec un programme de culture générale qui est vraiment intéressant. En première année, c'est très généraliste. C'est centré aussi sur l'exercice de la dissertation et sur l'oral.
Oui.
Et en deuxième année, chaque année donc le thème va changer. Cette année, c'est le désir. J'en toucherai un petit mot d'ailleurs.
Oui. Alors évidemment, quand on a une mauvaise note en philo, c'est parce qu'on a des opinions différentes de celles du prof.
Hein.
Pas du tout. Parce qu'on est un affreux marxiste. Alors que vous connaissez peut-être, puisque vous êtes lycée Jean-Paul Sartre, il paraît que Jean-Paul Sartre, la première année où il a enseigné à François 1er, le prof de Rouen était un catéchumène, etc. Et il les interrogeait sur les propriétés de l'âme. Alors Sartre a déboulé, je sais pas, avec sa petite voiture, je sais pas trop, et il a dit: je te préviens, si tu continues à embêter mes élèves avec les propriétés de l'âme, eh bien les tiens, ils auront tous les chapitres du Capital.
Je crois qu'il y avait des querelles à l'époque qu'on imagine assez mal entre professeurs. Et je crois que c'était assez curieux, quoi. C'est un fonctionnement qui peut nous paraître maintenant complètement invraisemblable.
Oui.
Je pense effectivement.
Il reste quelque chose du passage de Sartre au lycée François 1er ?
Oui, alors il y a une salle, la salle Morpin, où il a pu enseigner, bon, qui a été restructurée ces derniers temps, mais qui est une sorte de salle où on songe à Sartre. Il y a En 2005, j'avais organisé une journée consacrée donc à Jean-Paul Sartre.
C'est pas dans l'exposition Sartre à Rouen à la bibliothèque.
Non, c'était une journée philosophique que j'avais organisée. C'est la première que j'organisais. Donc c'est François Ier.
Il y avait peut-être le cher Monsieur Carsin.
Oui, bien sûr. Il y avait l'ensemble des professeurs de philosophie de la région. J'avais fait venir aussi des personnes un petit peu de Paris également pour parler de Sartre. Et ça avait été l'occasion de... C'était en 2005, donc c'était 100 ans après sa naissance. Oui. J'avais quand même placé ça un 1er avril, sachant que Sartre n'aime pas trop les commémorations, les choses officielles.
Non.
Quelqu'un qui refuse le prix Nobel de littérature, il faut faire ça avec
précaution. Qu'il n'a pas toujours été comme ça, parce qu'il y a à la bibliothèque, je crois, une lettre de Sartre, et il écrit à la librairie d'ombre, nous sommes en 38 ou quelque chose comme ça, et il dit est-ce que vous pouvez mettre un peu plus en vitrine la nausée qu'on boit mon livre, etc. Donc comme débutant, il était comme moi, il était soucieux qu'on voit son livre comme un vulgaire petit écrivain à la galerne.
Entre la librairie d'ombre et le prix Nobel de littérature, il y a une petite différence. Je pense qu'il a joué la modestie sur les grandes choses.
Oui, il a une écriture d'ailleurs extrêmement enfantine. C'est assez curieux son écriture. Ah,
tu dirais
enfin, à cette époque-là, dans les années 30. Oui.
Ouais.
Vous enseignez cette philosophie, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'il est menacé, l'enseignement de la philosophie, pour être polémique tout d'un coup?
Grande question. Menacée, disons qu'il y a... Il y a des conditions pour qu'un enseignement de philosophie puisse avoir lieu d'une façon sereine et structurée. Hein, c'est que les élèves qui arrivent en terminale soient déjà bien instruits. Là, on a, je dirais, un train de réforme depuis des années qui vont plutôt vers une sorte d'appauvrissement, quand même, il faut le dire.
Faire une philosophie instrumentalisée
pour
qu'elle serve.
Ça peut être ça, mais surtout, je dirais que c'est aussi... il y a deux conditions. Je pense qu'il faut d'abord que les élèves aient un certain niveau. Hein, qui sachent déjà, qui soient passés par la littérature, qui connaissent des choses en histoire-géographie, enfin bon, ce qui semble béaba, semble-t-il, mais ce n'est pas toujours le cas. D'une part, parce qu'il y a une sorte d'appauvrissement des programmes, mais aussi il y a des passages automatiques, donc on se retrouve avec des classes parfois très hétérogènes en terminale. On le sent parfois un petit peu aussi en classe prépa, avec des élèves qui sont de bon niveau, d'autres qui sont très faibles. Donc ça, c'est compliqué. Hein, c'est un peu le grand écart quand il s'agit d'instruire et d'enseigner dans ces conditions-là. Et puis, il y a une nouveauté qui est apparue là, dernièrement, à savoir de la philosophie qui est arrivée en première, mais d'une façon très confuse. Hein, donc là, on ne va pas rentrer dans le détail des réformes Blanquer, mais c'est extrêmement confus. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Faudra voir un petit peu comment ça se présente. Mais pour l'instant, les collègues qui sont en charge de cet enseignement sont vraiment souvent embêtés, pour diverses raisons. Aussi parce qu'on ne sait pas quels sont les exercices. Et puis ça se présente un petit peu comme une sorte d'approfondissement de spécialité avant l'initiation de terminale. Donc c'est un peu curieux. Mais des idées bizarres parfois dans l'éducation nationale. Donc ça, il faudra voir. Ensuite, je ne m'inquiète pas sur l'exercice de la philosophie dans les sociétés en général.
Je
pense que ça peut vivre en dehors de l'institution scolaire. Une des spécificités de la France, c'est qu'il y a encore d'ailleurs, de toute façon, une philosophie qui est inscrite dans le lycée, ce qui est quand même un fait assez rare. Donc,
Est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'éducation nationale un grand souhait, un grand désir, puisque vous parliez de désir, un ministre qui n'aurait pas de réforme dans sa poche?
Ce serait bien. C'est ce que nous avait promis notre ministre, mais il n'a pas tenu sa parole.
Il a cédé à la tentation. Voilà, nous allons faire, si vous voulez bien, Didier, une petite pause musicale.
Watch the box in a vegetable way, but always ready to say to myself that I was an artist, implying that she was not. It's funny the way that self-pity can take over from self-esteem. Well, I was the prince of pride, and though I cheat, I never lie, as if that were enough to make her happy, as if that could satisfy her dream. Too late now to say that I'm so sorry, too late to say that I can change and mend the things that hurt. She didn't need to worry, she always knew I'd get there in the end. Now I'm tying myself up in contortions, don't know if yoga will do me any good. It's about time I tried, though I'd rather be inside from the top studying tantra. Still I never did that when I never put the things that really matter. I couldn't find to unlock myself. I could have done it with the help, but I was too busy.
Bonjour, nous sommes toujours avec Didier Guillaumet, professeur de philosophie au lycée François 1er, cinéphile, ami des slameurs. On vient d'entendre
un morceau de Peter Hamill, tiré d'un album. C'est de la pop musique, c'est une balade, tiré d'un album qui s'appelle Over. Le morceau s'appelle On Tuesdays You Used to Do Yoga.
Avec mon sens aigu des transitions que les auditeurs connaissent, on va reparler de Jean-Paul Sartre, mais pour parler de la cinéphilie. En effet, il y a une espèce de passation de pouvoir. Je pense à Jean-Paul Sartre qui a tellement influencé un prof d'anglais qui s'appelait Jean Justiniani,
oui,
qui lui-même a beaucoup influencé un cinéphile formidable qui est Vincent Pinel. Et donc on a là un passage de témoin en quelque sorte. Alors vous aussi, Didier, vous continuez cette tradition, arrière-petit-fils de Sartre et petit-fils de Vincent Pinel, donc cinéphile. Et de Zarifian, peut-être, car vous travaillez avec le studio.
Visiblement, j'ai beaucoup de pères spirituels. Mais...
Oui.
Et je travaille avec le studio, effectivement.
Oui.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est votre cinéphilie ? Vous présentez des films de temps à autre, c'est ça ?
Oui, voilà. J'essaie régulièrement au studio de présenter un film au moins une fois par an, quand je peux, évidemment. Le dernier, c'était quand passent les cigognes de Kalatozov, qui est un mélodrame flamboyant. Si
qui m'a fait beaucoup pleurer quand je l'ai vu en 61, je crois.
Tout à fait.
Le film doit être de 58 d'ailleurs. Mais...
J'ai dû le voir 5-6 fois avant de le présenter. Et c'est vrai qu'il y a une ou deux fois où je sentais la petite larme pointer à l'horizon.
C'est un film étrange d'ailleurs, politiquement parlant.
Oui.
C'est un film khrouchtchevien, je trouve.
Tout à fait.
Parce qu'à un moment, par exemple, l'héroïne, elle dit qu'elle a peur de la police. Oui. Or, jamais en 1941, une héroïne n'aurait dit qu'elle avait peur de la police.
Oui.
Donc c'est une façon pour Khrouchtchev de dire Staline était méchant.
Tout à fait. Il n'y a pas un seul portrait de Staline alors que ça se passe à un
moment
où on devrait
les voir.
Il y a un petit buste de Lénine dans le film.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des discours qui sont des discours, je dirais... qui sont étonnants, qui ont surpris, et qui ont d'ailleurs fait que ce film a été populaire un peu partout.
Oui, avec La Balade du Soldat, par exemple, que vous avez vu aussi, je pense.
Non, je n'ai pas vu celui-ci.
J'ai passé à peu près en même temps. Bon, oui. On découvrait quand même, mais vous n'étiez pas né, je pense.
N'était pas mené, non.
Mais on découvrait un cinéma soviétique qui n'était pas Eisenstein ou qui n'était pas le glorieux militant, etc. Ouais. Oui, c'était très, très émouvant, oui.
Voilà, donc l'idée...
Alors, d'autres films vous avez présentés ?
Oui, l'idée, c'est de... J'ai présenté aussi L'homme à la caméra. J'ai montré Caché de Michael Haneke.
Ah oui.
J'ai montré deux films de Michael Haneke, donc Caché et Les 71 fragments de la chronologie du hasard. C'est un réalisateur autrichien que j'aime beaucoup. Donc là, c'était l'occasion aussi de faire des petites présentations. J'ai été amené exposé, faire un petit exposé aussi sur Jeanne d'Arc de Dreyer. Oui. Voilà, donc des films très différents.
Oui.
Hein, qui me semble.
Et dans le cinéma d'aujourd'hui, en dehors du studio, est-ce qu'il y a des cinéastes que vous aimez, je suppose, quand
oui,
même.
Alors en France,
Dolan, non
Xavier Dolan, oui. J'aime bien en France aussi Dumont, hein, Bruno Dumont,
oui.
Qui fait des choses très, très curieuses.
Oui.
Je trouve que c'est vraiment un cinéaste intéressant. Qui s'inscrit dans la lignée de Tarkovsky.
Oui.
Donc ça, c'est, ou de Bresson en France aussi.
Oui.
Donc voilà. Mais c'est vrai que la cinéphilie, c'est aussi une manière de penser la philosophie. Moi, je pense que le philosophe se nourrit aussi de tout ce qui est produit dans la société, que ce soit les événements politiques, évidemment, les artistes.
Le premier cinéphile, c'est Socrate dans sa caverne. Qui voit les ombres.
Platon décrivant les... C'est vrai que l'allégorie de la caverne est déjà quelque chose
déjà
d'assez
très cinématographique.
C'est très étonnant.
Et d'ailleurs, vous avez, ça me permet encore une transition remarquable. Vous travaillez sur Le Banquet notamment.
Oui.
Puisqu'on parle de Platon.
Oui, tout à fait. J'ai été amené à d'ailleurs rédiger quelques articles sur le Banquet. À un moment quand je m'occupais...
Vous publiez un peu dans les revues des classes préparatoires, des manuels des classes préparatoires.
J'ai commis quelques textes dans des manuels pour classes préparatoires, notamment sur Le Banquet, c'était sur les échanges, j'avais fait quelque chose sur l'échange amoureux dans Le Banquet de Platon. Et j'avais organisé, il y a des années de cela, lorsque je m'occupais d'une association qui s'appelait Philocéane, qui organisait des conférences de philosophie au Havre.
Ça n'existe plus, ça, là.
Ça dort, ça peut se réveiller.
C'est une cellule dormante, comme on dit.
Voilà, tout à fait. Et on avait fait une journée, on avait fait une série complète sur Le Banquet de Platon.
Oui.
On avait invité des conférenciers divers et variés. Il y avait une petite représentation théâtrale qui a été menée à cette époque-là par les personnes du lycée Porte-Océane, puisqu'il y avait cette... Et comme cette année le thème en classe préparatoire, ma deuxième année, c'est le désir, c'est vrai que Le Banquet, j'en reparle encore.
On va en parler et on va faire une deuxième pause musicale. Bonjour, nous sommes toujours avec Didier Guillaumet, donc professeur de philosophie au lycée François 1er. On vient d'entendre, j'accélère, on a très peu de temps.
Oui, on vient d'entendre un morceau de Jean Dismas Zelenka, tiré du Miserere. C'est un musicien baroque.
Très bien. Alors, le slam, vous êtes un ami des slameurs, slameur vous-même.
Oui, j'ai fait beaucoup de slam il y a une quinzaine d'années, dans un lieu qui s'appelait les Lucioles au Havre.
Oui.
Bon, j'avoue que là, j'ai quelque peu décroché, mais je reste proche des slameurs. Il y a eu diverses choses qui ont été faites avec eux.
Oui, vous travaillez avec le cher Errico qu'on a invité
tout à fait,
ici.
Tout à fait. Je reste. Je ne produis plus du tout de slam, donc je ne permettrai pas d'en faire un petit. D'ailleurs, je n'en ai plus en mémoire.
Oui.
Mais ça a été une période très, très intéressante avec une personne qui s'appelait Anne-Lizy, d'ailleurs, qui a lancé le slam et qui a ensuite donné la main notamment à quelqu'un qui s'appelle Magnès, qui s'occupe notamment du slam.
Magnès, que nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Le photographe compulsif.
Voilà. Ce qui m'avait intéressé dans le slam, c'était aussi cette liberté de ton.
Oui.
Et puis cette rencontre avec des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Il n'y a pas. Nos sociétés manquent parfois de lieux où des gens très différents peuvent se retrouver, quelle que soit la classe sociale, quelles que soient les aspirations.
C'est classique, pas transgénérationnel. Si aussi.
Parce qu'on trouve des gens de tout âge, effectivement.
Le théâtre, une minute et demie.
Voilà, le théâtre. Alors, modestement, j'ai intégré le théâtre de l'impossible, ce dont je me réjouis.
Du cher Jean-Baptiste.
Voilà, de Jean-Baptiste Lemarchand qui met en scène. Et ce qui est prévu, c'est j'en profite pour le dire, le 24 et 25 janvier prochain au THV, une représentation donc de Tamerlan le Grand de Marlowe.
Oui, qui a déjà été donné à l'abbaye de Graville, si je ne me trompe.
Tout à fait, ça a été joué en juin.
Oui.
Dernier. Et là, c'est une autre version qui va être jouée.
C'est une bonne idée de parler de Marlowe, parce que Shakespeare, d'accord, mais Marlowe est quelquefois plus moderne, je trouve. Je vais me faire des ennemis, là. Mais plus direct, plus simple dans son expression.
C'est autre chose. C'est plus brutal aussi, parfois.
Parce qu'il a
Il y a Tamerlan.
Ce qui correspond bien aussi à l'époque.
Il a fait la Saint-Barthélemy. Il y a quelques pièces quand même très...
Il a fait la pièce sur la Saint-Barthélemy. Voilà. Il ne l'a pas faite lui-même.
Tout à fait.
J'espère
tout à fait.
Toujours.
Non,
et puis
pièce,
alors,
évidemment.
Il nous reste l'amateur de musique. On l'a vu tout de suite.
Oui, voilà. Hein. On a donné quelques...
Comme il nous reste encore que très peu de temps, je crois que vous voulez parler du désir et du bonheur, les deux choses.
Oui, j'en profite pour cette émission, puisqu'après tout, je suis professeur de philosophie.
Oui.
Cette année, je travaille sur le désir. Puis c'est vrai que j'aurais deux petites choses à dire sur le désir.
Oui.
D'abord, il y a une... belle définition que je vais donner, parce qu'elle fait toujours plaisir. C'est une définition que donne Leibniz. En fait, je vais faire deux petites citations de Leibniz, qui est un philosophe qu'on oublie un petit peu. La première, c'est la définition du désir. Il écrit ceci. « L'inquiétude qu'un homme ressent lui-même, par l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir. » Et je trouve que c'est une très belle définition. Qui montre aussi, alors ce qu'il entend par inquiétude en fait, ce n'est pas au sens psychologique où on l'entend maintenant, l'inquiétude en fait c'est le fait de se mettre en mouvement.
Oui,
voilà.
Ah oui.
Et il y a une autre belle citation de Leibniz qui porte justement sur la notion de bonheur. Après tout on sait bien que pour être heureux il faut satisfaire ses désirs. Est-ce vrai ? Après tout, l'intérêt de Leibniz...
Est-ce qu'il ne faut pas en garder un petit peu par-devers soi, les fantasmes normalement ? Est-ce qu'il vaut mieux les laisser ?
Écoute, Yolan, je crois que tu es l'amnistien, parce que c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est pour ça que j'aime bien cette citation, parce que c'est une citation qui montre que le bonheur n'est pas un moment d'achèvement.
Allons-y.
Tout n'est pas fini. La citation est la suivante, où il nous dit ceci. « Notre véritable bonheur ne consistera jamais et ne doit point consister en une jouissance complète où il n'y aurait plus rien à désirer et qui rendrait notre esprit stupide, mais en un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. » Ça, je suis sûr que ça te plaît.
Eh bien oui, puisque je suis leibnizien. Donc nous étions avec Didier Guillaumet et Didier, je vous remercie pour ce beau final leibnizien.
Merci Yolan, au revoir.
C'était Les Rencontres du Livre, le livre sous tous ses aspects avec Yolan Simon et ses invités.